RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Et après Martine à la plage, voilà Martine sur les pavés. Tony Martin, vainqueur de la 4e étape du Tour de France. Et en plus, l'Allemand prend le maillot jaune. Cyril Guimard avec nous avant 18h30. Et à 20h, vous appelez le 32-16, vous tweetez avec le hashtag RMC Live. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont là pour vous écouter. Le capitaine a fait son choix. L'équipe de France de tennis affronte la Grande-Bretagne dans 10 jours en quart de finale de la Coupe Davis. Ça se passe sur l'herbe du Queen's à Londres. Gasquet, Mahu, Simon et son garçon là. Pas Gaël, mon fils. Arnaud Clément, le capitaine, sera avec nous à 18h30. C'est la 5e recrue de l'OM cet été. Bouna Sara, l'attaquant de Metz, nous accorde sa première interview depuis sa signature à Marseille. Et là, ce sera à 20h30. Et puis, trop de gardiens, cul gardien. Kevin Trapp est la première recrue du PSG cet été. Le gardien allemand a passé sa visite médicale ce matin. Du coup, que deviennent Salvatore Sirigu et Nicolas Duchesne? Il y en a forcément un qui devrait partir. Tout de suite, c'est le journal des sports. Bonsoir Marcel Fernandez.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
4e étape du Tour de France et 4e maillot jaune.
Ça change tous les jours avec aujourd'hui le grand sourire pour Tony Martin qui a gagné l'étape à Cambrai et qui en plus prend la tête du classement général. On retrouve Christophe Cessieux à Cambrai avec qui on a vécu cette étape dans l'intégral Tour. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe, c'est le coup parfait pour Tony Martin, l'Allemand donc nouveau maillot jaune et vainqueur d'étape. En tentant très loin, Christophe, on va essayer de rétablir ça. Tony Martin qui s'est imposé donc dans le groupe des rescapés après cette étape de pavé devant John Degenkolb et Peter Sagan, Christophe.
Ça y est, je suis là avec le bon micro, ça sera plus facile effectivement. Tony Martin qui a réalisé un coup double fabuleux aujourd'hui. Lui qui s'est échappé dans les deux derniers kilomètres, qui a réussi à lâcher le groupe des favoris pour se livrer à l'exercice qu'il préfère, à savoir celui du contre-la-montre. Tony Martin qui courait après ce maillot jaune depuis la première étape, réduit à la deuxième place depuis quasiment le départ de ce Tour de France, à une seconde, même pas à 6 centièmes de seconde, il était hier derrière Chris Froome, et bien aujourd'hui, il s'empare de ce maillot jaune devant Chris Froome, qui ne va sans doute pas être trop triste de se débarrasser de ce maillot jaune, il le récupérera probablement un peu plus tard. Pour le reste, et bien cette étape n'a pas vraiment servi à grand chose en ce qui concerne les favoris, puisque les quatre fantastiques ou pseudo-fantastiques sont tous là, ont tous réussi à terminer dans le premier groupe. C'est le cas évidemment de Chris Froome, qui a montré une nouvelle fois qu'il était l'homme en forme de ce Tour de France. Nibali, l'Italien, s'est refait la cerise aujourd'hui. Il a tenté à tout va de lâcher Chris Froome. Il n'a pas réussi à le faire, mais il a montré qu'il était en grande forme. Contador a joué à l'élastique, mais il a réussi à rester dans le groupe, tout comme Quintana. En fait, le seul véritable battu du jour se nomme Thibaut Pinot. Une nouvelle fois, le grand malchanceux du jour, après les jambes hier qui ne répondaient pas aujourd'hui. C'est le vélo qui a rendu l'âme, son vélo, qui a été malheureusement, qui n'a pas fonctionné dans l'un des derniers secteurs pavés du jour. Il n'a pas réussi à être dépanné par ses mécanos et du coup, il concède une nouvelle fois plus de 3 minutes au général. Donc, c'est terminé pour la victoire finale ou pour même un podium dans ce Tour de France pour Thibaut Pinot. Les autres Français sont toujours là. Tony Galopin, 4e au général ce soir à 38 secondes. Et Warren Barguil, le grimpeur, qui a montré qu'il était aussi un coureur complet. Il est ce soir 11e général à 1:19. Et son principal terrain de chasse, ce sera évidemment la montagne à partir de la semaine prochaine.
Merci Christophe. 3 minutes 23 perdues par Thibaut Pinot après ses soucis de dérailleur. Grosse colère du coureur français. Son manager dans l'équipe FDJ, Marc Madiot, lui a préféré garder son calme.
Il y a des années ou des moments où ça va bien, d'autres où ça va moins bien. On n'est pas dans la bonne série. On va d'abord penser à la santé de William en premier. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça ne l'est. Et puis la course, il fera jour demain. Il y a encore 2 semaines de course. Il y a des belles étapes pour Thibaut. On va voir comment on procède. Il y a encore matière à s'exprimer.
Voilà, Marc Madiot au micro de Pierre-Yves Leroux qui fait allusion à William Bonnet qui était tombé hier et qui avait dû abandonner. Demain, 5e étape, Virginie, ce sera peut-être plus calme. 189 km 500 entre Arras et Amiens.
Pour les sprinteurs, sans doute, la victoire de Tony Martin, la malchance de Thibaut Pinot. On va parler de tout ça avec Cyril Guimard dans une dizaine de minutes maintenant. On ne verra pas Gaël Monfils en équipe de France de tennis, en tout cas pas dans 10 jours.
Et parce qu'il n'aime pas le gazon, alors ils vont faire sans lui. 4 noms et plein de possibilités du coup pour jouer contre la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Il y aura donc Gasquet et Simon, les deux quarts de finalistes de Wimbledon, plus Tsonga et Mahu, avec un remplaçant spécialiste du double, Pierre-Hugues Herbert. Ça laisse la place à de nombreuses combinaisons. Alors qui pour jouer les simples? Gasquet et Simon, encore en lice à Wimbledon, ont-ils une longueur d'avance dans l'esprit du capitaine Arnaud Clément?
C'est sûr que c'est bien d'avoir des joueurs en pleine forme et qui font des grands matchs, qu'on a pu le voir ces derniers jours. C'est bien pour leur confiance et c'est forcément bien pour la confiance de l'équipe. Pas oublier aussi Joe aussi, qui est extrêmement performant en simple et qui s'est simplement incliné contre Karlovic. Ici, on sait à quel point ça peut être compliqué contre Karlovic sur toutes les surfaces, encore plus spécialement sur gazon. Ces trois joueurs sont très performants en simple. On n'oubliera pas aussi Nico Mahut, qui a gagné un tournoi sur gazon la semaine dernière et qui est une vraie possibilité.
Et Arnaud Clément sera en direct avec nous dans l'intégrale Tour d'RMC à 18h30.
Novak Djokovic, lui, qualifié pour les quarts de finale. Il a gagné son 5e set aujourd'hui contre le Sud-Africain Anderson. Et puis, on a les filles sur les courts aujourd'hui pour leur quart de finale. Et ça donne quoi, Eric Salio?
Bah, ça donne qu'on connaît déjà deux demi-finalistes. Maria Sharapova, qui s'est débarrassée de l'américaine Coco Vandeweghe en trois manches, 6-3, 6-7, 6-2. Et puis de l'autre côté du tableau, l'espagnol Garbine Muguruza, qui a battu Timea Bachinski, 7-5, 6-3. Sharapova attend de connaître son adversaire. Ce sera la gagnante du match vedette qui se déroule actuellement sur centrale entre Serena Williams et Victoria Azarenka. Et surprise, pour l'instant, c'est Azarenka qui mène 5 jeux à 2, alors que sur le court numéro 1, le quatrième quart oppose Keys à Radvanska, tie-break du premier set.
Et merci Eric, on viendra te voir régulièrement dans l'intégrale Tour pour suivre la fin de ces matchs.
Il s'appelle Kevin Trapp et il est à Paris.
Alors déjà Virginie, on va rappeler qui est, oui, Kevin Trapp, parce que franchement, il y a quelques semaines, pas grand monde ne le connaissait, en tout cas en France. Kevin Trapp, c'est un gardien de but allemand qui arrive pour signer au Paris Saint-Germain. Il est à Paris. Aujourd'hui, il a passé sa visite médicale ce matin à la Pitié-Salpêtrière. Et heureusement, Mohamed Bouafsi est là pour nous le présenter. Mohamed, c'est qui ce Trapp?
Eh bien, il y a encore une semaine, personne n'avait jamais entendu son nom. Et voilà que tout Paris se demande aujourd'hui qui est ce fameux Kevin Trapp. Si on passe au-delà de son corps d'Apollon, qui a fait craquer toutes les filles en Allemagne, de son amour, de la photographie et des selfies, pour se vanter de son physique avantageux, Kevin Trapp est l'un des gardiens les plus prometteurs d'Allemagne. À seulement 24 ans, l'Allemand comptabilise déjà plus de 117 rencontres de Bundesliga. Ce beau bébé d'1m89 pour 88 kilos se distingue par une aisance dans le jeu aérien et un jeu au pied précis. Derrière le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, il est considéré comme l'un des meilleurs espoir allemand. Un joueur qui est aussi un businessman. Il a développé une marque de vêtements et participe à des défilés de mode. Avec Trapp, le PSG s'offre un bon gardien, mais aussi un véritable potentiel marketing.
Merci Mohamed. Vous pouvez aller sur rmcsport.fr d'ailleurs pour répondre à la question qu'on vous pose. Kevin Trapp doit-il être le gardien numéro 1 du PSG? Vous êtes pour l'instant 64% à dire oui.
RMC, le Mercato Show.
Le marché des transferts avec Damien Gozuzio. Damien, un monument sur le point de quitter le Real Madrid, Iker Casillas.
Oui, il négocie actuellement avec le Real ses deux dernières années de salaire, 25 millions d'euros tout de même. Il pourrait renoncer à toucher une partie de cette somme pour accélérer son transfert vers Porto. La fin d'une époque, puisque Casillas était à Madrid depuis 1990. Casillas quitte l'Espagne alors que Rami la retrouve. C'est officiel, le défenseur s'est engagé pour 4 saisons avec le FC Séville, de retour en Liga donc après avoir quitté Valence il y a un an et demi. En Angleterre, Manchester United tout proche de signer le joueur Matteo Darmian en provenance du Torino. Il devrait s'engager pour 4 saisons et un salaire de 270 000 euros par mois. Et puis en France, pour terminer, deux officialisations, celle de Riyad Boudbouz de Bastia vers Montpellier et celle de Bounassar à l'Olympique de Marseille. L'ailier de 23 ans en provenance de Metz a participé à son premier entraînement sous les ordres de Marcelo Bielsa cet après-midi.
Et Bounassar sera avec toi Virginie, je crois, à 20h30.
C'est à 20h30 exactement.
Permis de conduire retiré pour Dimitri Payet, l'ancien Marseillais, nouveau joueur de West Ham, flashé à 170 km/h sur une portion limitée à 90. C'était sur l'île de la Réunion, son île natale, où Payet est en vacances.
Donc il attendra encore un petit peu avant d'apprendre à rouler à gauche, hein, puisqu'il vient de signer en Angleterre. Au boulot, le rugby, le 15 de France au travail à Marcoussis.
Ouais, ce n'est que le deuxième jour où ces garçons sont au boulot sur 75 jours de travail prévus avant le premier match des Français à la Coupe du Monde au mois de septembre. Aujourd'hui, ces messieurs ont soulevé de la fonte, comme hier, comme demain. Ça tombe bien, le talonneur Dimitri Zervzeski est un peu maso.
C'est un petit peu particulier pour moi parce que c'est vrai que la préparation physique c'est quelque chose que j'aime, donc j'aime me faire mal, donc mais ouais, je me rajoute des séances. Donc la préparation physique, non, ça ne me dérange pas plus que ça, même si des fois en se levant ben on a quelques courbatures, donc on préférerait en avoir moins. Mais bon, après je peux comprendre que pour certains, mais c'est difficile, mais bon, on est là aussi pour aider les plus jeunes où c'est qu'un peu moins d'expérience, justement à vraiment bien intégrer cette préparation pour ne pas la galvauder, ne pas avoir de regret après pendant la compétition.
Voilà, Dimitri Zarzewski avec Laurent Depré.
La NBA avec de bonnes nouvelles pour les Spurs de San Antonio.
On leur prédisait une saison compliquée avec l'arrêt de leurs meilleurs vieux, Tim Duncan et Manu Ginobili. Et finalement, les vieux restent. L'équipe de Tony Parker s'est même renforcée ces derniers jours et elle commence à faire peur, Benoît Boutron.
Oui, à San Antonio, on veut vite oublier la saison dernière et l'élimination au premier tour des playoffs. Du coup, les Spurs ont frappé fort. D'abord en recrutant l'intérieur All-Star de Portland, LaMarcus Aldridge, le joueur le plus convoité de l'été. Aldridge qui touchera 80 millions de dollars sur 4 ans. Et autre mission accomplie, convaincre les papis, Manu Ginobili, 37 ans, et Tim Duncan, 39 ans, de re-signer pour une saison. Tony Parker et Kawhi Leonard poursuivent eux aussi l'aventure. Enfin, en bonus, la signature surprise de David West, l'ailier fort d'Indiana, qui a préféré faire une croix sur les 12 millions de dollars de sa dernière année de contrat. West touchera 8 fois moins au Texas. Objectif, débloquer son palmarès et aider les Spurs à conquérir un 6e titre de champion NBA.
Et puis on reste aux États-Unis, le boxeur Floyd Mayweather va perdre un de ses titres de champion du monde.
Souvenez-vous, c'était au mois de mai, Mayweather face à Manny Pacquiao, soi-disant le combat du siècle. Déjà, l'affrontement avait été très moyen sur le ring. Maintenant, c'est l'après-match qui tourne au ridicule et toujours pour une histoire d'argent, Maureen Lehoux.
Oui, sur le papier, la règle est pourtant simple. Après chaque titre de champion du monde, le gagnant doit reverser une somme à la WBO, une des très réglementées fédérations de boxe professionnelle. Dans le cas de Mayweather, 180 000 euros, une somme finalement modique pour le sportif le mieux payé du monde cette année avec ses 265 millions d'euros. Pourtant, l'Américain n'a pas payé, la sanction est donc tombée. La WBO l'a destitué de son titre de champion du monde, mais pas les fédérations WBA et WBC. Acte volontaire ou simple oubli, l'annonce est cocasse, mais montre peut-être le peu d'intérêt du boxeur pour ce titre. En mai dernier, il disait déjà vouloir abandonner toutes ses ceintures pour laisser leur chance à d'autres boxeurs. Il ne l'avait pas encore fait, la WBO vient de lui simplifier la tâche. Floyd Mayweather a 2 semaines pour faire appel, peu de doute cependant qu'il soit entendu. Mais une chose elle est sûre, en septembre prochain, l'Américain de 38 ans montera sur le ring une dernière fois avant de mettre un terme à sa carrière.
Merci beaucoup Maureen, merci Martial Fernandez. À tout à l'heure, 19h pour un nouveau journal des sports. On va repartir à Cambrai dans une petite minute avec Cyril Guimard à l'arrivée de la 4e étape du Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour.
Tu te mets sur le vélo, voilà, tu te mets bien droit, voilà.
Virginie Fulpin.
Et tu poses genre j'attaque le col, ok?
Il est 18h19, l'intégral tour continue jusqu'à 21h sur RMC. On est en direct de Cambrai avec Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Oui.
Alors Cyril.
Oui, bonjour. Enfin, bonjour. Bonsoir.
Bonsoir, oui, oui. 4 étapes, 4 maillots jaunes. Hein. Tony Martin, là, ce soir, sur les épaules. On change tous les jours. Ça fait de l'animation dans le Tour de France. Hein.
Oui, on ne va pas s'en plaindre. Quelquefois, on a eu des coureurs qui nous ont habitués d'or, un, à gagner le Tour de France tous les ans, et puis d'autres qui prenaient le maillot et qui le gardaient 15 jours, voire plus. Alors, on en a un qui change tous les jours. Ça veut dire que la course bouge. Ça veut dire qu'il y a une vraie bataille. Il y a plein d'événements hein, qui se produisent aussi, y compris pour le maillot jaune, mais en dehors. Donc c'est un tour qui est vraiment, vraiment très, très vivant. Et c'est vrai que le parcours tel qu'il a été dessiné hein, depuis les Pays-Bas jusqu'à notre entrée en France pouvait permettre ce genre de scénario. Et puis à chaque fois, on a eu des maillots jaunes qui avaient une vraie valeur, une vraie signification. Et ce que fait aujourd'hui Tony Martin dans le final est absolument exceptionnel. On l'avait vu l'an dernier réaliser des exploits et gagner une étape en partant. Mais là, il était parti à 150 km de l'arrivée. Et puis, c'est le meilleur rouleur du monde. Donc, qu'il ait au moins une fois dans sa vie le maillot de leader, c'est quand même quelque chose de logique. Disons que justice lui a été rendue.
Et est-ce que les Sky n'ont pas voulu ou pas pu défendre le maillot jaune de Chris Froome?
Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas qu'ils avaient l'intention de le défendre bec et ongle. Je pense surtout qu'ils étaient persuadés que les équipiers de Degen Kolb ou ceux de Boigny ou de Van Avermaet allaient prendre la poursuite à leur compte en se disant attendez, ils veulent gagner l'étape. Degen Kolb, il voulait gagner l'étape. Van Avermaet aussi. Boissenhagen, mais lui, il n'avait plus d'équipier, donc il ne pouvait pas bouger. Mais surtout Degen Kolb, qui avait encore des équipiers. On a vu ses équipiers se mettre venir assumer la chasse quand les Sky ont dit bon, attendez, là on n'est pas dans la cour, là, donc on s'en fiche. Et on a vu que bah, les équipiers de Gent Kolb ne pouvaient pas revenir sur ce rouleur absolument extraordinaire, triple champion du monde, hein, du contre-la-montre, il faut quand même le dire. L'an dernier, il avait perdu sa tunique battu par le grand Wiggins, mais il marchait déjà un petit peu moins, il était un petit peu usé par une saison. Donc le meilleur rouleur du monde, eh bien les équipiers de Gent Kolb, eh bien n'ont pas pu boucher le trou. Et je crois que bah, ça fait partie de la course de Gent Kolb, mais il faudra qu'il essaye de gagner une étape dans d'autres circonstances. Mais pour la Sky, il y a un moment, il faut savoir dans quel registre on joue.
Est-ce que je vois là quand même les favoris, ceux qu'on appelle les quatre fantastiques là,
qu'on appelait, hein, peut-être.
Qu'on appelait, mais en tout cas ils sont là quand même, ils sont là. On a vu Nibali qui n'avait pas forcément toujours été bien depuis le début, qui là a beaucoup attaqué, il a beaucoup donné de sa personne quand même, donc ils sont quand même présents.
Oui, alors Nibali, il avait une carte à jouer aujourd'hui.
Hein, oui, parce que moi je me suis demandé pourquoi il attaque autant, pourquoi il travaille autant l'Italien.
Ben tout simplement parce qu'il voulait faire craquer ou le porteur du maillot jaune ou reprendre du temps à Quintana. Il avait donc tout intérêt car il est très à l'aise, il est très fluide sur les pavés, il a des qualités cyclistes absolument extraordinaires. Il faudra qu'un jour il se mette dans la tête de venir sur Paris-Roubaix, c'est indéniable. Sauf que ça n'a pas pu se faire parce que il y avait ce vent qui de temps en temps nous donne une étape merveilleuse comme celle que nous avons eue en allant sur Zeeland, qui a fait exploser tout le peloton. Mais c'était un vent qui était de côté ou de trois quarts arrière. Et comme je dis toujours, c'est les vents qui sont les plus dangereux. Là, contrairement à ce type de vent, on avait un vent de face. Et un vent de face, ça veut dire que derrière, lorsque vous êtes en quatrième, cinquième, sixième, dixième position, vous êtes dans l'aspiration. Alors comment voulez-vous vous faire sortir des roues quand vous appelez quand même Contador, quand vous appelez Quintana, vous arrivez, sauf incident, vous arrivez à vous accrocher parce que l'aspiration est telle que vous ne pouvez pas vous faire sortir. Et pour Nibali aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un échec parce qu'il a démontré que il était là et qu'il était un vrai guerrier, qu'il avait la bonne jambe, mais il n'aura pas pu reprendre de temps. C'est dommage pour lui.
Alors, il y en a un qu'on a vu encore en difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est de la malchance ou si c'est lui. Thibaut Pinot. Hein, ouais. Bon, c'est pas la première fois depuis le début de ce tour. Hein, même à part le contre-la-montre, on l'a vu en difficulté à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a eu un problème avec son vélo?
Eh bien, disons que le Tour de France est parti pour lui de façon magistrale. Il fait un superbe contre-la-montre aux Pays-Bas. Il devance tous les grands favoris de ce Tour de France. Et depuis, un jour, c'est une claque sur la joue droite. Le lendemain, c'est une claque sur la joue gauche. Et puis aujourd'hui, on peut dire qu'il a pris une claque de chaque côté, quoi. Non, ça ne veut pas rigoler. Alors, ça ne veut pas rigoler, c'est pas...
Puis alors, on l'a vu agacé, s'en prendre à son staff, etc.
C'est facile. Oui, mais... Bon, il peut pas en vouloir à son staff puisque de toute façon il est dans la même condition que tous les autres coureurs. Les voitures ne peuvent pas être derrière. Le problème, c'est qu'il faut faire un changement de vélo. Et pour faire un changement de vélo, ça peut être que la voiture. Donc, il est pas en colère contre son staff. Il est tout simplement dépité. Voilà. Et ce soir, il a plus de 6 minutes et il doit être dépité comme toute son équipe. Et puis. Il n'y a pas que cela qui se passe et qui joue. Il y a aussi la grave chute hier de William Bonnet. Tout ça veut dire que on n'est plus dans une dynamique psychologique favorable. Donc, ça amplifie aussi.
C'est-à-dire qu'un petit problème devient un gros problème quand on va pas bien.
Voilà. Voilà, Virginie, vous avez tout compris.
Cyril, il y a Yann qui nous appelle au 32-16. Bonsoir, Yann.
Oui, bonsoir Virginie, bonsoir Monsieur Guimard.
Bonsoir Yann.
Et tu n'es pas très tendre avec Thibaut Pinot.
Non, avec Thibaut Pinot, je ne suis pas très tendre, oui. En fait, pas très tendre avec le traitement médiatique que les médias font de Thibaut Pinot.
Ah, pas très tendre avec nous alors.
Oui, c'est un petit peu différent, la question.
Non, pas RMC, surtout France Télévisions pour ne pas les citer. Mais je pense que les médias en ont trop fait avec Thibaut Pinot à ses débuts, comme avec beaucoup d'autres, comme Pierre Roland.
Je vous rejoins là.
Voilà, merci Monsieur Guimard. Je pense que c'est des coureurs qui ont un beau potentiel, mais qui n'ont pas le potentiel pour gagner un grand tour. C'est les coureurs des tours d'une semaine, comme le Tour de Suisse ou autre, ou les coureurs d'étapes de montagne, comme Richard Virenque. Mais ils seront jamais capables de gagner un Tour de France. Ils ont ni le mental, ni la capacité technique et tactique, et ni l'équipe pour les emmener sur une victoire. Donc je pense que les médias devraient rejoindre un tout petit peu sur Terre et les présenter comme des outsiders peut-être pour un top 10, mais ça vaut rien un top 10, et qui visent plutôt des belles victoires d'étape comme Richard Virenque à l'époque ou Luc Leblanc que vous avez coaché avec, avec
ou
Brio.
Ou le classement de la montagne ou autre chose.
Le classement de la montagne, voilà.
J'ai presque envie de dire, là vous soulevez un vrai problème, mais bon, on ne refait pas l'histoire, hein. Mais les médias se sont enflammés sur ce jeune coureur qui participait à son premier Tour de France et qui va gagner l'étape de Porrentruy sur les routes suisses. D'ailleurs, il aime bien la Suisse. Et malheureusement, enfin pour moi, et je l'avais dit à l'époque, il est trop jeune pour faire le Tour. En plus, avec le potentiel qu'il a, il faut le préserver, il faut l'amener progressivement. Mais c'est lui qui a voulu faire le Tour, hein. C'est pas Marc Madiot qui a voulu le mettre. Et puis, j'ai presque envie de dire, il a pas de chance. Il va gagner une étape. S'il n'avait pas gagné d'étape,
On en aurait moins parlé.
Il aurait continué à se préparer, à progresser, à travailler tranquillement. Or là, on en a fait une star, alors qu'il n'avait gagné qu'une seule étape sur le Tour de France. Et attendez, une étape, pas à la pédale. Il avait été le meilleur de l'échappée. Ouais. Et là, on a commencé à le présenter comme, c'est vrai qu'on n'avait personne non plus, à le présenter comme le futur grand du cyclisme français, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, mais à le mettre dans une situation de futur vainqueur du Tour de France. Alors que dans sa tête, il avait seulement envie de faire le Tour de France, gagner. Il a rien demandé. Et ce sont effectivement...
Oui, on va pas lui en vouloir à lui maintenant. Merci beaucoup, Cyril. Voilà. Et puis de toute façon, on va pas faire non plus le contraire. C'est-à-dire qu'on va pas l'enterrer trop vite non plus parce qu'on l'a mis trop haut, trop vite. Donc voilà, voyons ce que voilà. Ça donne
très bonne,
maintenant.
Très bonne réaction. Voilà.
Merci beaucoup, Cyril Guimard. On te retrouve à 19h avec Christophe Cessieux et toute l'équipe à Cambrai à l'arrivée de cette quatrième étape. Dans un instant, Arnaud Clément sera en ligne avec nous dans deux minutes, hein, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qui a choisi ses joueurs pour affronter la Grande-Bretagne dans 10 jours au Queen's. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 18h31, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Le capitaine a fait son choix. Voilà les joueurs retenus par Arnaud Clément pour le quart de finale de Coupe Davis, Grande-Bretagne, France, dans 10 jours. Richard Gasquet, Nicolas Mahut, Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga, plus Pierre Hugerbert en remplaçant. Et le capitaine est en ligne avec nous. Bonsoir Arnaud Clément.
Bonsoir.
Éric Salio, notre spécialiste tennis, est avec vous à Wimbledon. Salut Éric.
Bonsoir Virginie.
Alors est-ce que le choix a été difficile, Arnaud?
Toujours, vous savez, il y a toujours avec voilà la richesse de ce groupe France, voilà toujours des réflexions. Mais pour moi, c'est ce groupe de cinq se dégager assez clairement.
Est-ce que votre choix était déjà à peu près fait avant Wimbledon, ou est-ce que en observant tous vos joueurs là sur le gazon anglais, vous avez peaufiné tout ça?
Oui, bien sûr. Les informations prises au cours de ce Wimbledon étaient aussi importantes et intéressantes. Encore plus, voilà, sur quand on est amené à jouer une rencontre la semaine qui suit le Grand Chelem sur la même surface. Donc voilà, forcément, et extrêmement attentif au niveau de jeu, à la manière de jouer de chacun des joueurs français. Et puis je sais que voilà aussi, voilà, juste derrière, pas loin, j'aurais pu m'appuyer voilà sur un Jérémy Chardy, notamment sur un Adrian Manarino aussi qui montre aussi depuis des mois de très belles choses.
Richard Gasquet, lui, c'était comme une évidence, hein, sur gazon. On le voit d'ailleurs en ce moment à Wimbledon. Il est à un très haut niveau, ça n'a jamais été un problème. Vous étiez sûr de le prendre.
Oui, et puis en plus, juste pour, il y a aussi Edouard Roger-Vasselin aussi, par sa capacité à jouer des doubles de très haut niveau aussi, qui était un candidat sérieux à la sélection. Et oui, Richard Gasquet, oui, ça me fait plaisir, très plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Mais vous savez, Richard, ça fait un moment qu'il est en forme. Dès son tournoi de reprise sur terre battue hop, à Estoril, il s'était imposé. Imposé justement en finale contre Kyrgios, qu'il a rebattu hier. Donc ouais, ça fait plaisir de voir Richard jouer comme ça, plaisir de voir Gilles également sortir des voilà des grands matchs, et notamment son, il a été impressionnant hier contre Berdic, et voilà, c'était une vraie leçon de tennis qu'il a donné à un des meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, c'est ça fait plaisir en tout cas de les voir en forme et de voir leur sourire au moment de saluer le public à la fin de après avoir serré la main à leur adversaire.
Joe Wilfried Tsonga, lui, est-ce qu'il va pas être un peu miné moralement après sa défaite au troisième tour contre Ivo Karlovic, où vous lui avez parlé depuis?
Oui, bien sûr. Non, mais c'est toujours extrêmement frustrant de jouer voilà contre Ivo Karlovic, de perdre des matchs contre lui. Voilà, on sait à quel point c'est difficile pour n'importe quel joueur, encore plus sans doute sur gazon. Il a réalisé un match énorme. Je crois qu'il y a plus de 80% de première balle, de 41 ace sur les 4 sets qui ont été joués. Donc voilà, après ça remet en rien en cause, et Joe en est parfaitement conscient, son niveau de jeu, son état de forme actuel, et il est toujours voilà sur une très bonne période en tout cas dans la continuité de Roland Garros. Donc non, tout en rien en tout cas la confiance de Joe n'a pu être touchée par ce Wimbledon.
Vous avez quand même dû maudire Karlovic, hein, parce que si Tsonga était passé, il aurait affronté Andy Murray, ça vous aurait donné quand même quelques indications.
Vous savez, moi, en fait, je regarde pas trop les tableaux à l'avance, pas comme certains joueurs, parce que bon, écoutez, je regarde les matchs, et puis donc je l'ignorais, mais oui, bah, ça aurait pu être un match intéressant, mais vous savez, ils se connaissent parfaitement, ils se jouent régulièrement toute l'année sur le circuit, ils sont joués également sur gazon déjà, donc oui, bah, ça aurait donné des informations pour les deux équipes de toute manière, donc voilà, de toute manière, ce match n'a pas eu lieu.
Est-ce que vous avez une idée déjà de stratégie, qui va jouer en simple, qui va jouer en double, qui en fait jouer en premier, etc.?
Oui, j'ai déjà une idée assez voilà assez précise de ma manière de voir la rencontre, même si voilà certaines choses peuvent encore bouger. Nous sommes voilà simplement à 9 jours de la voilà du moment de décider.
C'est-à-dire, on peut en savoir un petit peu plus?
Ah bah non.
Merci.
Enfin Virginie quand même.
Vous imaginez bien.
Oui, mais enfin je suis bien
posé
la
écoutent.
Question. Ah, les Anglais nous écoutent. Bon, les Anglais c'est surtout Andy Murray quand même. Hein.
Alors les Britanniques, parce que
oui, pardon, oui, si ça, je dis qu'il est anglais, Andy oui, Murray, ça va poser un problème.
Ça,
les Britanniques.
Ça peut le mettre en colère. Hein, ça peut le mettre en colère. Donc oui, alors ou pas simplement Andy Murray. Alors bien évidemment, Andy Murray, c'est voilà leur joueur emblématique, le joueur qu'on connaît, l'immense champion, vainqueur de Grand Chelem, des Jeux Olympiques, qui est extrêmement en forme en ce moment. Et voilà, on est parfaitement conscients tous, et les joueurs le sont également, que le battre, ça sera une mission très difficile, mais une mission qui sera pas impossible. Après, il n'est pas tout seul. Faut pas oublier qu'il a un joueur voilà qui l'épaule depuis des années en Coupe Davis, qui s'appelle James Ward, qui est méconnu du grand public parce qu'il est au-delà de la 100e place, mais qui a réalisé déjà des grandes performances en Coupe Davis. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui peut avoir un niveau de jeu très élevé sur certains matchs, qui est capable de tenir la pression et qui a battu voilà notamment Isner à la dernière rencontre, qui avait battu déjà même par le passé un Sam Querrey, voilà des joueurs du top 20, du top 15. Ils ont également un très bon double. On sait que les Anglais ont cette culture, les Britanniques cette culture du double, et ils le jouent régulièrement toute l'année. Donc ils ont de multiples possibilités, et leur équipe de double s'était simplement inclinée 9-7 au cinquième contre les frères Bryan, donc en début d'année. Donc voilà, écoutez, très 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 sincèrement, très clairement, voilà, on va jouer notre carte à fond vraiment contre Andy Murray, et on va prendre très au sérieux voilà également leur joueur numéro 2 et leur double qui sera très performant.
Gaël Monfils, il y a pas eu de débat, hein. il aime pas le gazon, il joue pas.
Non, mais vous savez voilà Gaël, il y a eu des discussions entre nous. Voilà, je savais.
Parce qu'il est pas si mauvais que ça quand même sur gazon.
Non, Gaël, est extrêmement, il est bon sur toutes les surfaces, et par la qualité de son jeu, voilà, il peut être très très performant, et il nous l'a montré voilà ces dernières semaines en gagnant pas mal de matchs justement sur gazon. Après, la problématique n'est pas vraiment celle-ci, n'est pas le niveau de jeu qu'il peut pratiquer, c'est justement l'appréhension qu'il a dans ses déplacements sur gazon. Et autant on peut être un petit peu en contrôle parfois justement sur certains tournois, parce que voilà, il aborde vraiment cette saison sur gazon, Gaël, avec beaucoup de relâchement, de décontraction. Il joue peut-être pas justement le tennis, un tennis qui est complètement le sien. Il joue un petit peu différemment et il peut être performant en jouant différemment. Mais en Coupe Davis, c'est différent et il aura besoin et il aura justement de pouvoir bouger comme il sait bouger. Et il est beaucoup moins à l'aise sur gazon. Il a peur justement d'essayer des glissades, peur de se faire mal, et c'est très dur de jouer justement en ayant peur, avec cette appréhension, et de pouvoir se lâcher sur un court comme on aura besoin de se lâcher le week-end d'après, contre les Britanniques.
Et vous n'avez pas appelé Benoît Paire, c'est dommage parce qu'il a l'air de bien aimer ça, l'Angleterre, le gazon, tout ça.
Non, mais écoutez, de la même manière, voilà, Benoît Paire simplement incliné en 5-7 ici, je sais, voilà, j'ai bien évidemment suivi aussi ses déclarations, et c'est, vous savez, c'est pour les mêmes raisons que Gaël, ce sont des grands gabarits qui glissent beaucoup, qui se déplacent très bien et qui sont un peu moins à l'aise justement dans ces déplacements sur gazon, qui ont cette peur justement de la blessure. Mais voilà, de la même manière, Benoît, je suis persuadé qu'il peut réaliser une grande performance sur gazon.
Alors Arnaud, là on parle de Grande-Bretagne-France, mais il y a une sorte de France-Suisse demain, hein, Gasquet-Wawrinka et Simon Federer. J'imagine que vous allez suivre ça de près.
Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je reste ici et je serai très intéressé par ces deux matchs de très haut niveau que nos Français seront amenés à jouer. Et voilà, je suis assez excité, je vous avoue, parce que bien, même si les Roger et Stan seront favoris dans ces deux matchs. Voilà, moi j'ai vu de très très belles choses en tout cas de la part de nos Français, Richard et Gilles, et je suis persuadé voilà que s'ils arrivent à reproduire les matchs qu'ils ont été amenés à jouer les tours précédents, ils vont poser beaucoup de problèmes aux joueurs suisses.
Alors c'est la première fois, Eric, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, depuis 1991 qu'il y a deux Français en quart de finale à Wimbledon.
Oui.
Et donc 91 pour la Coupe Davis, ça avait donné quoi déjà?
Je crois que ça gagne au bout, hein.
C'est ça, il me semble bien, hein, Arnaud.
Non, Arnaud,
vous êtes attentif aux symboles ou pas du tout?
Écoutez, moi, voilà. Eric vous a répondu absolument pas. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je vois vraiment cette rencontre qui arrive, et une rencontre qui sera compliquée. Et j'arrive aussi, voilà, avec des joueurs qui sont très en forme. Et ça, c'est bien évidemment très intéressant pour nous.
Dernière chose, vous allez vous entraîner directement sur les cours du Queens ou ailleurs, juste après Wimbledon?
Ça sera sur les cours, voilà, sur les cours du Queens, dès le week-end prochain. Voilà, nous serons sur place.
Et par exemple, Richard Gasquet et Gilles Simon, ils restent directement à Londres. Vous êtes tous ensemble,
écoutez, bon,
directement.
Déjà, on va suivre leur parcours jusqu'au bout. Voilà, j'espère encore une fois, ce tour-là, ils vont réussir à le franchir, et pourquoi pas celui d'après, et peut-être que. Voilà, on pense, en tout cas, voilà, parce que j'ai vu, on peut être amené à être très ambitieux, en tout cas, pour l'un et pour l'autre, pour ce Wimbledon. Après, ils auront sans doute besoin de couper un ou deux jours, donc on verra, on adaptera le programme, en tout cas, pour ceux qui, sont encore ici et j'espère le resteront.
Je crois, Virginie, que le rendez-vous est vendredi soir du côté de Chelsea. Je crois que Arnaud serait pas gêné s'il y avait quelques absents.
Voilà. Si on peut commencer avec trois simplement, et que les deux hommes nous rejoignent en début de semaine prochaine, ça serait fabuleux pour eux et pour nous.
Oui, il n'y aurait pas trop de décalage horaire en plus, ce serait parfait. Merci beaucoup Arnaud Clément.
Avec plaisir.
Eric Salo, tu vas rester un petit peu avec moi là, parce que je crois que tu sais exactement quand sont programmés les deux quarts de finale de nos Français là demain à Wimbledon.
Oui Virginie, le programme est tombé, et malheureusement, c'est ce que je craignais, ils joueront sur le court 1. Je dis malheureusement parce que la cabine RMC donne sur le court central. Donc ça, c'est justement, je vous dis ça.
Tu vas quand même voir les matchs pour pouvoir nous les faire vivre.
Les matchs,
hein.
Mais devant mon écran de télé, malheureusement. Voilà. Donc c'est le bas de tableau qui commencera. Donc Gilles Simon au Federer à partir de 14h en française, suivi de Gasquet contre Wawrinka, puisque sur le central, on aura Andy Murray et Novak Djokovic derrière.
Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour Serena Williams?
Il y a un gros match. C'est énorme, ce match entre Serena Williams et Victoria Azarenka. Une manche à zéro pour la Bélarusse, 6-3. Deux partout dans le deuxième set. Serena qui a manqué plusieurs balles de break. Il y a eu un jeu monumental. Elle était en train de tenir Vika. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Ça, c'est la grande question.
On va continuer à suivre ça avec toi, bien sûr, Eric, en direct de Wimbledon. C'est France-Angleterre, donc il y en a au tennis. On en aura aussi deux pour le prix d'un en rugby au mois d'août. Le 15 de France en préparation pour la Coupe du Monde. La concurrence fait déjà rage. La concurrence, il va y en avoir aussi au poste de gardien au PSG. Kevin Trapp est arrivé, ils sont trois maintenant. On va voir comment ça va se passer. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h48, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h sur RMC. Je crois qu'il est temps de soulever un petit peu de fond. Direction Marcoussis, c'est la Coupe du Monde de rugby.
RMC, rugby 2015.
Les 36 joueurs du 15 de France ont commencé leur préparation hier. Je peux vous dire qu'ils souffrent un petit peu. Laurent Depré est avec moi en studio de retour de Marcoussis. Salut Laurent.
Salut, salut. Moi ça va, je souffre pas trop.
Ça va pas, pas encore. On va juste revenir là-dessus un petit moment. C'est loin d'être un camp de vacances. C'est un boulot, boulot, boulot et surtout physique, physique, physique. Hein, ça continue.
De 5 à 8 séances, de 45 à 1 heure, une 45 minutes à 1 heure et demie par jour avec à chaque fois une collation, prise de poids avec des prises de sang, enfin... énorme travail, 70% de physique, 30% de non physique, c'est-à-dire tactique, un petit peu de ballon et puis stretching, pas méditation mais sommeil, beaucoup de sommeil.
Et le pire c'est qu'il y en a quand même ça parce qu'on entendait tout à l'heure Dimitri Zarzewski nous dire que lui ça lui plaisait de faire du physique et qu'il se mettait, il y avait même des séances en plus quoi, il s'ajoutait des séances. Je trouve ça assez dingue.
C'est pas le seul hein, en plus, hein. Faut pas croire que c'est le bon élève de la classe hein. Parmi les 36, ils sont une bonne moitié à faire la même chose, Sébastien Tillius-Bord entre autres.
Alors peut-être aussi parce que il faut prouver qu'on a envie d'être là, tout simplement, parce qu'ils sont 36 en ce moment à Marcoussis, mais à la fin, pour aller à la Coupe du Monde, ils ne seront plus que 31. Bon, ils connaissent tous les règles du jeu au départ, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Est-ce qu'il y a un round d'observation en ce moment, ou est-ce que direct, on entre dans le vif du sujet ?
Alors on est dans le vif du sujet, hein. 15% le risque de ne pas faire la Coupe du Monde quand on est dans les 36. Hein. Est-ce que tu t'imagines, Virginie, on te dit on va vous opérer, mais il y a 15% de risque que vous réveilliez pas. Très bien. Là, évidemment, il s'agit pas de ça. Il s'agit que de sport. Mais quand même, ce sont des professionnels. Une Coupe du Monde, c'est une opportunité qu'on n'a pas l'occasion très souvent de pouvoir saisir. Alors, je crois qu'on va écouter Philippe Saint-André en premier, parce qu'il va nous expliquer comment il fait, lui, pour considérer que le passage de 36 à 31 n'est pas forcément le pire des crève-cœurs.
Ce que j'ai dit aux joueurs, là, on est dans l'aventure, et puis l'aventure, si elle est belle, elle commence à 36. Après, automatiquement, faut que les joueurs soient complètement dans le projet, s'investissent individuellement et dans le collectif. Après, il y aura des blessures, il y a deux matchs amicaux, et après, ça sera mon rôle de prendre des décisions et d'éliminer 5 joueurs, mais si on fait une grande Coupe du Monde, ça sera grâce à la préparation et donc ça sera grâce à ces 36 joueurs.
Ouais, alors c'est vrai que c'est joli ce qu'il dit, j'ai envie de dire, ce sera grâce aux 36, c'est toujours ce qu'on se dit, c'est le groupe qui gagne, les remplaçants sont toujours là aussi, mais bon, au fond d'eux, les joueurs, si on leur dit oui, on a fait une bonne Coupe du Monde, vous étiez dans les 36, mais vous étiez pas dans les 31, ça va leur faire une belle jambe, quoi. C'est pas ça qu'ils veulent, là.
Bah oui, t'es en cuisine, tu prépares le plat, et au moment de passer à table, on te dit c'est pas pour toi. C'est un petit peu ce qui se passe, effectivement, c'est dur. Les joueurs le savent, hein, et franchement, déjà, Philippe Saint-André, je lui avais posé la question au mois de novembre, je lui ai dit être sélectionneur, justement, c'est sélectionner ou se séparer? La réponse avait été difficile à sortir, et c'est pas parce que c'est Philippe Saint-André, c'est comme ça. Il y a d'abord un premier choix, il en a pris 50, ensuite, il en prend 36, ils seront plus que 31, viendra le premier match, il faudra 23, donc 15 titulaires, etc., etc. Donc c'est peut-être d'abord se séparer, être sélectionneur. En tout cas, les joueurs, eux, sont pas dupes. Il y a un poste où ils sont trois. C'est a priori le poste où il y a peut-être le moins de chances qu'il en enlève un, puisque généralement, c'est trois talonneurs pour une Coupe du Monde. Mais il y a un risque quand même. Benjamin Kaiser, le talonneur de Clermont et de l'équipe de France.
Une concurrence saine, pour moi, ça n'a jamais altéré un état d'esprit qu'il peut avoir dans un groupe. Dimitri, ça fait 10 ans que je suis en concurrence avec lui. Il se donne à fond, je me donne à fond. Ça n'empêche qu'on peut jouer aux cartes ensemble et quand on se serre la main, il n'y a aucun problème. Et avec Guillaume, c'est pareil. L'idée, c'est juste de se dire, donnons-nous le meilleur et puis que le meilleur gagne. Quoi. Voilà. Après, honnêtement, de ce que je vois, bon, ça fait un jour et demi, donc c'est absolument rien, mais de ce qu'on voit depuis qu'on est là, il n'y a pas de mec qui se regarde de travers en disant de se dire, lui, je vais le crever, etc. Il y a une concurrence, tout le monde a envie de vendre chèrement sa peau. Mais déjà, on va se concentré sur rien n'est plus important que le groupe et rien n'est plus important que de progresser tous individuellement.
Il a l'air sincère quand il parle de saine concurrence. Bon, de toute façon, ils le savent qu'ils sont là pour ça. Enfin, ils ont l'habitude de se croiser sur les terrains de rugby. Ils vont pas se mettre des bâtons dans les roues maintenant.
Ouais, et puis le rugby est pro désormais depuis 20 ans. Donc la concurrence, ils l'ont au centre de formation pour y entrer. Ils l'ont aussi au sein des clubs. Après, ils l'ont aussi lorsqu'ils doivent changer de club. Ils sont en concurrence avec d'autres joueurs. C'est leur lot commun. Regarde par exemple exemple, pour la finale du top 14 ou les demi-finales du top 14, des joueurs qui avaient été étincelants toute la saison n'ont pas été sélectionnés. On pense à Vincent Debatty, qui pourtant est dans les 36, qui n'a pas été retenu pour la demi ni pour la finale avec Clermont, ou encore toujours à Clermont, à Julien Bonner, qui pourtant avait été admirable. Donc voilà, ils sont habitués à cette concurrence, ils vivent avec, même si des fois ça a énormément de mal à passer, mais on préfère se taire au nom de la solidarité du groupe, et on en revient au son de Philippe Saint-André, où si on gagne, si on fait une belle Coupe du Monde, ça aura été une aventure à 36.
Voilà, on va dire ça. Et la concurrence, elle se joue sur quoi? Elle se joue juste au niveau rugby, où il y a aussi l'humain qui compte, c'est-à-dire comment on s'entend avec les autres, comment on s'entend avec le sélectionneur, ça joue aussi, j'imagine.
Oui, ça joue aussi, effectivement, parce que ce n'est pas seulement la performance sur le terrain qui compte. Le rugby est un sport bizarre où il y a beaucoup d'affect, parce que c'est un sport de, Serge Chimon en parlerait beaucoup mieux que moi, c'est un sport où il y a le lien, on a besoin de se serrer, de se tenir, ne serait-ce que pour attaquer ou pour défendre, donc énormément de solidarité. Je suis pas en train de vous raconter les bisounours où il faut absolument que ça dégouline d'amour en dehors du terrain pour que ça marche. Non, mais s'il y a le moindre petit aiguillon de rancœur où là, il faut crever l'abcès tout de suite, ou alors il faut couper la branche et l'écarter. Il y a eu des précédents. Hein.
Merci beaucoup Laurent Depré. Tous les jours, vous suivez avec nous cette préparation du 15 de France pour la Coupe du Monde de l'intérieur à Marcoussis, puis à Tignes. C'est dans 74 jours exactement maintenant, cette Coupe du Monde. La concurrence, on va encore en parler, parce qu'il va y en avoir au PSG, au poste de gardien. Est-ce que la guerre des gardiens va avoir lieu? Ils vont être trois maintenant, plus un quatrième qui revient l'an prochain. Salvatore Sirigu, titulaire, Nicolas Duchesse, son remplaçant, plus Alphonse Areola qui lui est prêté à Villarreal. Et voilà qu'arrive Kevin Trapp. Le gardien allemand a passé sa visite médicale ce matin. Alors quand on parle de foot, Mohamed Bouassi n'est jamais bien loin. Salut Mohamed.
Salut Virginie.
Ce Kevin Trapp là, c'est le nouveau Manuel Neuer?
Alors, il paraît que c'est un très très bon gardien en Allemagne. En tout cas, c'est
il présente bien, en tout cas. Hein, on a vu les photos. Oui,
il est très très beau.
Très
voilà, il est apprécié de la gente féminine en Allemagne. Vraiment, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, un petit coup marketing pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est quelqu'un qui est connu aussi en dehors du football en Allemagne. Et on est sûr qu'il va avoir un franc succès du côté de Paris. Pour revenir au football, c'est un espoir du football allemand. Le football allemand a deux très bons gardiens en Allemagne. Il s'agit de Manuel Neuer, qui est un titulaire indiscutable champion du monde, et aussi de Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Et il est en troisième position, en tout cas chez les experts du foot. Il n'est pas en troisième position, en tout cas dans la sélection allemande, puisqu'il y a d'autres gardiens qui sont devant lui, mais notamment pour la gestion du groupe dans la Nationalmannschaft. Mais en tout cas, c'est considéré comme l'un des plus grands espoirs du foot allemand.
Mais alors du coup, comment ça va se passer? Parce que moi, je me mets à la place de Salvatore Sirigu, qui va rentrer de vacances, là, et il va voir arriver un nouveau gardien. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il va rester à Paris ou pas?
Alors concrètement, il y a ce qu'on dit dans les dirigeants, en tout cas le message porté par les dirigeants, et ensuite le message porté par Salvatore Sirigu et son entourage. Selon les dirigeants du Paris Saint-Germain, eh bien il faudra que Salvatore Sirigu tout simplement accepte la concurrence. On explique qu'au Real Madrid, il y avait la saison dernière Casillas, Keylor Navas, au Barça Ter Stegen et Claudio Bravo, à Chelsea Courtois et Petr Cech. Donc que le PSG, qui est devenu un grand club, a besoin de deux très bons et deux très grands gardiens. Ensuite, il y a le discours de Salvatore Sirigu. Il va devenir en quelques jours, en quelques semaines, numéro 1 bis. Il va devoir accepter la concurrence, et ça lui fait mal. Et je peux vous dire même que selon plusieurs personnes de son entourage, son conseiller s'est déjà renseigné sur des portes de sortie, on va dire, notamment du côté de l'Italie. On regarde notamment du côté de l'AS Roma pour voir s'il pourrait y avoir une offre dans les prochains jours pour Salvatore Sirigu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nicolas Duchesse ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain. Il est très très bien au PSG, il a un très beau contrat. Il est très apprécié par les joueurs, par les dirigeants et notamment aussi par les étrangers. Donc il devrait rester au Paris Saint-Germain dans cette position de numéro 2 ou de numéro 3 si Salvatore Sirigu reste. Aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est sur l'avenir de Salvatore Sirigu.
Alors on va te retrouver tout à l'heure Mohamed, on va parler de cette guerre des gardiens qui aura lieu et qui n'aura pas lieu au Paris Saint-Germain. Ce sera à 20h45, vous n'hésitez pas à nous appeler au 3216 et à réagir sur Twitter, hashtag RMC Live. Pour ça, on va reparler de Kevin Trapp, l'Allemand qui arrive au Paris Saint-Germain. Lui aussi s'habille comme un Allemand avec son short en jean, c'est Christophe Cessieux qui est là avec nous.
Aucun commentaire.
Je sais, t'as pas envie d'en parler hein.
Mais non, mais je... Bon, enfin bref, on va pas parler de ça, c'est pas le plus important. Il y a plein de choses importantes à évoquer dans quelques instants, dans la suite de l'intégral tour, avec évidemment cette quatrième étape du Tour de France qui s'est donc achevée tout à l'heure à Cambrai, avec un nouveau maillot jaune. Le quatrième en quatre jours, cette fois-ci, le maillot jaune tombe sur les épaules de Tony Martin. Et il ne tombe pas par hasard, il s'est vraiment battu pour aller le décrocher. Nous reviendrons également sur le baromètre des Fantastiques. Et puis, un mot évidemment sur Thibaut Pinot qui a cette fois-ci perdu toute chance de décrocher un podium dans ce Tour de France. Tout cela, ce sera après 19h, après les infos et après le journal des sports. L'intégral tour revient dans quelques instants.